toutes les églises ont des problèmes, y compris le BTM. Ce genre de lettres nous intéresse. C'est pas forcément les mêmes problèmes qu'avait l'église de Corinthe, mais toutes les églises dans le Nouveau Testament avaient des questions, des problèmes. Et nous voyons dans cette lettre comment Paul applique la vérité de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, à une multitude de problèmes pour aider cette église à vivre avec plus d'amour, plus d'unité, plus d'obéissance envers leur Seigneur. Alors c'est vrai qu'étudier les problèmes pourrait être une chose déprimante, semaine après semaine, nous étudions les problèmes. Mais vous savez, lorsqu'on étudie la science militaire, par exemple, on étudie les victoires de Napoléon, mais aussi on étudie ses défaites, ses échecs, ses défauts, pour apprendre des choses. Ou bien en médecine, on étudie les virus et les maladies, pas parce qu'on aime les virus, mais pour s'en protéger ou pour s'en guérir. Et c'est un peu ce que nous faisons dans cette lettre aux Corinthiens. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais c'est pas parce qu'on aime les problèmes d'église. C'est pas parce qu'on veut se croire meilleur que d'autres, mais c'est pour en apprendre, c'est pour vivre notre foi ensemble. Donc, ce matin, nous allons lire ensemble le chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12. Je vous invite à l'apprendre avec moi. Vous pouvez suivre dans votre Bible, sur votre téléphone. Il y a des Bibles de près, des fois sur la fenêtre là-bas, si jamais vous avez besoin d'une Bible. Donc, lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 12 pour voir la question, le problème suivant qui apparaît dans cette église. Chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Ou si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « J'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qu'il en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don des miracles, tous sont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils la langue, tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie plus par excellence. Est-ce que vous avez discerné peut-être le problème ou la question que posent les Corinthiens ici? On dirait que Paul aborde dans ce chapitre, ce que Paul aborde ici concerne la pratique de ce qu'on appelle souvent les dons spirituels. Et les Corinthiens et ça on voit aussi dans les chapitres 12, 13 et 14, les Corinthiens faisaient une fixation sur certains dons comme étant meilleurs ou plus spirituels que les autres, et ça causait des problèmes, ça causait du désordre. Et la solution de ce chapitre, comme vous avez vu, pour maintenir l'unité et l'ordre dans l'Église, c'est de reconnaître la diversité des dons. Et c'est ce que nous voulons célébrer ce matin, la diversité des dons dans l'Église. Nous ne sommes pas tous pareils, nous avons tous des dons différents, et c'est ça qui aide à préserver l'ordre et l'unité dans l'Église. Et pour aborder ce chapitre, nous allons voir tout d'abord le désordre des rassemblements à Corinthe. Ensuite, nous allons voir la diversité des dons qui apporte une solution à ce désordre. Et pour mieux comprendre cette diversité des dons, nous allons voir cette image très parlante qui donne les membres du corps, les membres, les organes d'un corps humain. Donc tout d'abord, comprenons un peu ce qui se passe à Corinthe, le désordre dans les rassemblements. Toute cette partie, d'ailleurs, qui commençait avec chapitre 11 et qui va jusqu'à chapitre 14, Paul essaie de régler un certain désordre dans les rassemblements de l'Église à Corinthe. Et tout à la fin de chapitre 14, qui termine cette partie, et son mot de conclusion, chapitre 14, verset 40, c'est « que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Comme quoi, ce n'était pas vraiment le cas à Corinthe. « Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Et encore un verset de conclusion, verset 33, il dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix ». Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour, donc nous voulons que nos rassemblements reflètent cet amour. Dieu est un Dieu de justice, nous voulons que nos rassemblements reflètent cette justice. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, nous voulons que nos rassemblements reflètent cet ordre. Mais ce n'était pas trop le cas à Corinthe. Et pour revenir au chapitre 12, nous apercevons dans les premiers versets qu'il y avait une certaine ignorance et une manière de vivre des choses, des pratiques chrétiennes, des dons spirituels qui contribuaient au désordre. Et Paul dit, ici en verset 1, il dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Nous avons déjà un petit indice ici de ce qui se passait, parce que dans l'original, il n'y a pas le mot « don ». Littéralement, le verset dit « Pour ce qui concerne les spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Alors, les spirituels, c'est comme les Corinthiens avaient posé une question à Paul. Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses? Et puisque le mot manque, à nous de remplir. Est-ce qu'il s'agit des dons spirituels? Est-ce qu'il s'agit des gens spirituels? Des choses spirituelles? De quoi parle-t-il? Mais c'est comme si les Corinthiens avaient l'habitude, eux, de parler des gens spirituels. Et Paul termine le chapitre 14 en disant « Pour celui qui se croit spirituel, il fait bien de m'écouter ce que je vous ai en train de dire. » Les Corinthiens étaient très fiers, ils voulaient être des gens spirituels, ils se croyaient des personnes très spirituelles. Mais Paul va plutôt dire, tout au long de, ce chapitre, « Oui, vous avez des dons spirituels, mais vous n'êtes pas pour autant des personnes spirituelles. » Et une grande leçon de cette église, tout au long de cette épître, c'est que don spirituel n'est pas synonyme avec maturité spirituelle. On peut être un très, très bon orateur, un très grand prédicateur, mais si on n'est pas fidèle à son épouse, par exemple, la maturité spirituelle n'y est pas. Vous pensez à l'enfant, un enfant qui reçoit un cadeau à Noël. L'enfant qui reçoit le meilleur cadeau au monde n'est pas forcément le plus gentil avec ses frères et sœurs. Il n'est pas forcément le plus humble. Il ne partage pas forcément ses cadeaux, des fois même, les enfants gâtés. Et cette église à Corinthe, c'est un peu une église gâtée. Une église, ils se croyaient surdoués. Mais nous sommes très, très spirituels. Et Paul va dire, non, vous croyez des gens spirituels, moi je vais vous parler des dons spirituels. Et votre manière de pratiquer ces dons n'est pas très, toujours très spirituelle. Cette église avait une abondance de dons, même des dons miraculeux. Mais aussi une abondance de problèmes. Parce qu'ils avaient déjà oublié qu'un don, c'est justement un don, c'est un cadeau. C'est, on ne pouvait pas s'en vanter. Alors, d'où venait le désordre? On a un verset 2, il continue. « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. » Donc, Paul rappelle leur ancienne expérience païenne. Et il semble que, d'après cette expérience, ils sortaient tous des milieux païens, des cultes idolâtres. Et il semble que d'après cette expérience païenne dans les cultes idolâtres, ils avaient tendance de définir le spirituel comme ce qui était lié à l'extase, à la transe, à une expérience un peu mystique. D'ailleurs, c'est encore le cas dans beaucoup de religions et beaucoup de spiritualité, beaucoup de cultes. On veut plutôt déconnecter l'intelligence et la pensée du corps Et donc, on va pas passer vraiment des moments à étudier un texte comme nous faisons ce matin, mais on veut déconnecter l'intelligence et le corps. Et surtout quand on ajoute un peu d'alcool, comme faisait à Corinthe, ou du sexe, ou une musique un peu bizarre, il n'est pas difficile d'arriver dans un état second, comme vous pouvez voir dans les cultes idolâtres. Et à ce moment, dans cet état second, effectivement, toutes sortes de choses peuvent sortir de la bouche. Mais on ne va pas forcément appeler ça spirituel. D'ailleurs, le comble, il dit, les idoles muettes ne vont pas vous conduire à dire des choses très intéressantes. Mais les Corinthiens avaient ces souvenirs comme quoi le spirituel était très... l'extase, la transe. D'ailleurs, quand vous pensez à la spiritualité, si vous mettez spiritualité dans un barre de recherche Google Images, qu'est-ce qui va vous rendre? Quand vous pensez à la spiritualité, ou quelqu'un de très spirituel qui est en train de vivre un moment très spirituel, à quoi vous pensez? Souvent, on imagine quelqu'un les yeux fermés, les mains en l'air, un peu déconnecté de la terre. Est-ce que c'est ça la vraie spiritualité? Peut-être la vraie spiritualité, c'est celle qui change une couche chez les poussins en ce moment même. Peut-être ça, c'est plus spirituel que fermer les yeux et lever les mains en l'air et chanter. En tout cas, on comprend pourquoi les Corinthiens avaient une grande préférence pour un don en particulier, qui va revenir beaucoup plus dans le chapitre 14, mais les Corinthiens avaient une grande préférence pour un don en particulier. Il s'agit de ce don qu'on appelle le parler en langue, ou la diversité des langues. Nous croyons que ce don des langues était une capacité surnaturelle à s'exprimer dans une autre langue connue pour le bénéfice des non-croyants, comme ce qui s'est passé à Pentecôte. Mais c'est vrai que ce don avait quelques ressemblances avec la spiritualité païenne, en sorte que, voilà, il y avait ce qui sortait de la bouche était un peu miraculeux, un peu surnaturel, un peu difficile à comprendre. Et ça, ils en disaient, oula, ça c'est super, c'est le summum de la spiritualité. Alors, dans leur rassemblement, voilà comment ils faisaient, tout le monde se concurrençait pour être celui qui faisait le plus, le meilleur parler en langue, le plus fort, et si tout le monde le fait ensemble, c'est encore mieux. Et là, on est très, très spirituel. Mais vous voyez comment cela conduit au désordre quand on fait comme ça. Déjà, c'était un peu la cacophonie, parce que tout le monde a essayé de faire ça. Mais c'est aussi l'attitude qui ne va pas. Et cette attitude, on peut la retrouver encore aujourd'hui. Quand tout le monde veut être le premier, quand tout le monde veut être le meilleur, quelque part, bien sûr, ça crée du désordre. Vous avez déjà vécu ça peut-être à l'aéroport, au moment de l'embarquement dans un avion. Tout le monde va être le premier à entrer dans l'avion. Et il y a un petit moment, on ne peut pas dire que l'ordre et la paix règnent dans ces moments où tout le monde veut être le premier à entrer dans l'avion. Ou bien un guichet où il n'y a pas de queue, tout le monde essaie d'être le premier et rapidement on commence à se disputer parce que tout le monde veut être le premier. Et les Corinthiens venaient à l'église un peu dans cet esprit-là. Ce qui conduit bien sûr au désordre. Si je vis l'église, si je viens à ces rassemblements avec mes ambitions, mes goûts, ma personne en premier, je contribue au désordre. Et Paul va dire, attention, ça c'est pas la vraie mesure de spiritualité, ce qui peut sortir de la bouche, comme dans les cultes païens. Quelle est la vraie mesure de spiritualité? Il nous donne dans le verset suivant. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. La vraie mesure de spiritualité, la vraie preuve que le Saint-Esprit est agissant dans nos vies, c'est de reconnaître Jésus comme Seigneur, comme nous avons chanté et dit ce matin déjà. Et c'est ça, déjà, c'est la clé pour comprendre les dons spirituels et notre manière de vivre l'Église. Quand on veut servir, la question, c'est est-ce que je mets Jésus, est-ce que ma manière de vivre, ma manière de servir met Jésus en premier? Est-ce que cette manière de servir, ce don, est-ce que ça attire l'attention sur Jésus ou sur moi-même? Si le Saint-Esprit est à l'œuvre, il nous fait dire Jésus est Seigneur par nos paroles et par nos actes. C'est déjà une manière d'aller vers l'ordre et la paix dans l'Église. Voyons maintenant concrètement comment il va les aider à régler ce problème de désordre. Et le grand appel de ce chapitre, c'est de reconnaître la diversité des dons dans l'Église. que l'un n'est pas plus spirituel que l'autre. La solution au désordre dans le rassemblement, la solution pour aller vers plus d'ordre et de paix, puisque Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, c'est de reconnaître la diversité des dons. Et il dit ça en versets 4, 5 et 6, il répète presque trois fois la même chose. Il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a une grande diversité dans l'Église qui devrait pousser vers l'unité. Alors c'est très intéressant que dès le départ, vous avez remarqué les trois versets évoquent l'Esprit, le Saint-Esprit, le Seigneur, Jésus, et puis Dieu le Père. Donc déjà une formulation trinitaire ici dans cette manière d'expliquer la diversité des dons pour l'unité de l'Église. Et c'est très intéressant que Paul relie la diversité des dons pour vivre une unité au Dieu trinitaire. Et c'est dans ce Dieu trinitaire que nous allons trouver justement le fondement et la source de cette diversité et unité auxquelles nous aspirons tous. Paul a déjà fait appel à la Trinité pour amener l'ordre dans les rôles entre hommes et femmes, qui se vivaient délicatement dans cette Église, sur les questions d'autorité et de soumission, comme nous avons vu en chapitre 11. Et ici, pour mieux comprendre la diversité et unité, il va rappeler la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et j'ai lu ça cette semaine dans un catéchisme protestant pour expliquer la Trinité. Il faisait cette remarque. La Trinité nous aide à comprendre comment il peut y avoir unité dans la diversité. C'est l'une des questions les plus cruciales pour notre société aujourd'hui. Certaines focalisent exclusivement sur la notion de diversité, mais ça conduit rarement à l'unité. D'autres réclament une uniformité, c'est-à-dire pas de diversité. Mais la Trinité nous prouve qu'il existe au sein de la diversité une profonde unité. Et ce que nous voulons vivre en tant qu'Église, ce qui n'est pas évident, nous sommes tous différents, mais nous voulons former un seul corps. Toutes les diversités ne sont pas forcément bonnes et saintes. Aujourd'hui, on parle de diversité, mais ces diversités ne sont pas soumises aux seigneuries de Jésus-Christ. Déjà, toute diversité doit reconnaître Jésus comme chef, comme Seigneur, vouloir écouter sa voix, sa parole. Mais ensuite, nous voulons vivre une unité. Et Paul va dire, ce qui va aider, c'est vous reconnaissiez, déjà un peu comme dans la Trinité, différentes fonctions, différents dons, dans une unité, vous dans l'Église, vous allez vivre cette même chose, vous avez différents dons, différentes fonctions, différents ministères, et la même foi. Et ensuite, il fait une liste des dons dans les versets 8 à 11, il énumère quelques dons. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette liste des dons? J'ai plusieurs remarques à faire qui peuvent être intéressantes. Il me semble que la phrase la plus importante dans cette liste des dons, en versets 8 à 11, c'est la phrase « à un autre ». Vous avez vu ça? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don de guérison, à un autre le don d'opérer les miracles. Vous voyez, il est en train de dire, c'est... Et si tout le monde n'a pas le même don, il donne ça à un, et à un autre, il donne ça, et à un autre, il donne ça, et à un autre, il donne son don. Vous ne pouvez pas penser que tout le monde a le même don. Dieu l'a voulu ainsi, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et puis, trois fois dans ce chapitre, vous pouvez remarquer qu'il fait une petite liste de dons, donc ici, 8 à 11, et puis il va refaire un peu une liste similaire en verset 28 à la fin du chapitre que nous avons lu, et il va refaire par ces questions une dernière liste en versets 29 et 30. Donc trois fois une petite liste des dons qui se ressemblent beaucoup, mais c'est très intéressant, chaque fois il met le don des langues à la fin de la liste, et au début il va mettre plutôt les apôtres, tout ça. Chaque fois, il met les langues à la fin de la liste pour contrer l'idée à Corinthe que les langues étaient le meilleur don, le tip-top. Vous pouvez aussi noter, c'est vrai que quand on lit cette liste des dons, on a tout de suite la question, mais comment se vivent ces dons? Est-ce qu'ils sont présents dans notre Église? Comment comprendre cette liste? D'abord, j'aimerais dire qu'un don spirituel, dans les cadres de lorsque le Nouveau Testament, et Paul le fait plusieurs fois lorsque le Nouveau Testament parle des dons, on est d'accord qu'un don spirituel est plus qu'un trait chrétien que tout le monde devrait avoir. Donc, certains mots ici, on parle de sagesse, de connaissance, de discernement, de foi. Bien sûr, tout chrétien devrait viser la connaissance de la Bible, la sagesse de vie, la foi en Jésus, le discernement de ce qui est bien et ce qui est mal. Ça c'est pour nous tous. Il y a des appels multipliés dans l'ensemble de la Bible à rechercher ces choses, à vivre ces choses. Mais ce verset dit qu'il a donné ça à un autre. Donc, ces choses-là ne sont pas juste des traits chrétiens que tout le monde devrait avoir. Les dons spirituels, c'est plus que ça. Vous pouvez aussi remarquer, quand je lis les versets 8 à 11, que ces dons, ils ont tous une dimension, je dirais, surnaturelle, une dimension miraculeuse. Surtout, vous voyez, le don d'opérer des miracles, la prophétie, où l'on reçoit une révélation qu'on peut appliquer à une situation particulière en conformité avec la vérité des Écritures, le discernement des esprits, l'interprétation des langues. Tous ces dons sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Ils commencent avec même une parole de sagesse, une parole de connaissance. Puisque dans les autres listes, ils commencent toujours avec le don d'apôtre, j'aurais tendance à relier ces dons de sagesse et de connaissance, comme Paul en avait déjà beaucoup parlé au début de l'épître, à cette sagesse qu'il lui a reçue en tant qu'apôtre pour expliquer le mystère de l'Évangile, pour proclamer Christ à travers toute la Bible. Même cette parole de sagesse, cette parole de connaissance viennent par révélation divine. Alors, et la question pour nous, est-ce que nous vivons ces choses ou comment nous vivons ces choses? Il ne faut pas oublier que les chrétiens du premier siècle n'y disposaient pas du Nouveau Testament. Ils n'avaient pas un héritage doctrinal comme nous pouvons avoir. Ils n'avaient pas de modèle. Des fois, je me mets à leur place. Que serait notre Église si on n'avait pas de Bible, en tout cas le Nouveau Testament? À l'époque, il n'y avait même pas les impressions et l'Internet. Si on n'avait pas d'autres exemples, d'autres églises, si on n'avait pas un héritage qui nous est venu, si on était vraiment la première génération des chrétiens qui veulent savoir comment vivre leur foi, ce ne serait pas évident sans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous bénéficions. Si nous n'avons pas exactement les mêmes problèmes qu'à Corinthe, on peut être reconnaissant pour l'œuvre de Dieu et l'œuvre de sa parole à travers les siècles. Nous sommes bénéficiaires de ces choses. Donc, on ne veut pas trop juger les Corinthiens, sachant qu'ils devaient savoir comment vivre leur foi, rien qu'avec avec beaucoup moins ce que nous avons aujourd'hui. D'où nous croyons que Dieu leur a donné à cette époque, notamment, un peu plus de ces dons miraculeux, ces dons surnaturels. Et les dons de cette liste, en versets 8 à 11, nous croyons que ces dons se manifestaient particulièrement pendant l'ère des apôtres, en attendant que l'Église ait les Écritures et une plus de maturité, d'où la présence des apôtres, aussi des prophètes, des guérisons, des miracles. Des langues et des interprétations des langues. Nous croyons que ces dons-là agissaient un peu comme vous allez mettre une tutelle pour aider un arbre à grandir droit, mais après la tutelle ne va pas être là pour toute la vie de l'arbre. Une fois que l'arbre met ses racines et devient solide, on n'a plus besoin de tutelle. Une autre image que donnait Spurgeon, c'était comme les bateaux remorqueurs qui sortent le navire du port. Là, ces bateaux ont une puissance, ils sont tout petits, mais ils ont une puissance pour pousser le bateau. Mais une fois que le bateau sort du port, il peut voyager sous sa propre impulsion avec les voiles. De la même manière, ces dons surnaturels agissaient un peu comme ça, pour faire démarrer l'Église et ensuite l'aider à s'attacher aux Écritures. Et on voit que même à travers ces chapitres-là, Paul prépare l'Église et les Églises à dépendre de moins en moins du miraculeux et de plus en plus aux Écritures. Et c'est ainsi que nous comprenons, nous, dans notre Église, la présence de ces dons miraculeux. Ceci dit, les dons ne sont pas limités à cette liste. D'ailleurs, dans les autres listes, il va évoquer d'autres choses. Le don de secourir, le don de gouverner, ce ne sont pas forcément des dons miraculeux, mais c'est des dons ordinaires avec des capacités que Dieu donne à son Église. Et dans d'autres passages du Nouveau Testament, Paul fait d'autres listes des dons. Donc, il y a vraiment une grande diversité. Il n'y a pas une seule liste qui donne une liste complète des dons. Et si on met tous ensemble, nous trouvons que voilà, Dieu dispose de mille façons de nous équiper dans son Église pour vivre notre foi ensemble. C'est comme un peintre qui trempe son pinceau dans plusieurs couleurs de base, mais avec plusieurs couleurs de base, on peut faire des milliers, des millions de couleurs. De la même manière, quelque part, Dieu a une manière, une quantité illimitée de couleurs, de configurations possibles. Certainement, on va les mélanger en quelque sorte. Et c'est ce que nous vivons chacun ici. Nous avons un don. Mais ce chapitre rappelle qu'un don n'est pas plus spirituel qu'un autre. Nous avons tous, il dit, reçu le même Saint-Esprit. Il dit ça en versets 12 et 13, nous avons tous été abreuvés du même Saint-Esprit. Paul va même dire que c'est un peu comme la diversité ethnique et sociale qu'on va trouver dans l'Église. Pour former un seul corps, verset 13, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Un juif n'est pas plus spirituel qu'un grec dans l'Église de cette époque. Un grec n'était pas plus spirituel ou plus proche de Dieu. Ils avaient accès au même Saint-Esprit, au même salut. Un esclave n'était pas moins proche de Dieu, moins spirituel qu'un homme libre. C'était le même salut, le même Jésus, le même Saint-Esprit pour tous. Et c'est pareil quand on pense aux dons. On a, nous, tendance à dire, lui, il est surdoué, lui est moins doué, mais Paul dit, il ne faut pas réfléchir comme ça, chacun a un don, chacun a pleinement le Saint-Esprit pour vivre ça. Alors, pour illustrer son propos et cet appel à vivre la diversité, il nous laisse avec une image très parlante, ça va dominer ce chapitre, c'est les membres d'un corps, un corps humain, les membres, les organes d'un corps humain. C'est une des illustrations les plus développées dans les écrits de Paul. Il s'étale sur plusieurs versets avec des fois un peu d'humour, de créativité, où il décrit un corps humain avec ses différents membres, ses organes. Et là, c'est très clair que tous n'ont pas la même fonction, tous n'ont pas le même don, mais l'ensemble, les organes fonctionnent ensemble pour créer une unité, une belle unité, pas du désordre, mais une unité avec toute une diversité de fonctions. On peut retenir donc quelques versets, quelques vérités dans cette image du corps. Tout d'abord, on voit qu'un corps n'est pas fait d'un seul membre, ce qui va dire dans les versets 14 à 20. Un corps n'est pas fait d'un seul membre. De la même manière, une église ne fonctionne pas avec un seul don. Vous avez déjà vu une oreille, juste une oreille, prendre le métro à Paris, à Toulouse. Une oreille toute seule? Une oreille se promener dans le métro? Non. D'ailleurs, comment il se fait pour se promener? Il n'a pas de pied. Et les Corinthiens avaient tendance de réfléchir comme ça. On est oreille et on n'est que oreille. Si dans leur conception, le parler en langue était le seul don. Si jamais un Corinthien disait à un autre, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. C'est comme l'oreille qui dit, le pied qui dit à la main, si tu n'es pas pied, tu ne fais pas partie du corps. Et ce serait une grave erreur. De la même manière, nous, on veut éviter de réduire la vie d'église, la vie de nos rassemblements, à une seule activité. Une seule activité n'est pas forcément la seule manière d'exprimer la spiritualité ou notre foi. Une seule chose que nous faisons, que ce soit la louange, la musique, ou la prédication, la prière, on ne va pas réduire la vie chrétienne, la vie d'église à une seule activité, parce qu'il y a plein de dons et de diversité. Dans les versets suivants, il va rappeler encore une vérité, chaque membre du corps a besoin de tous les autres. Chaque membre du corps a besoin de tous les autres. Certains de manière très étroite pour fonctionner. Par exemple, si vous tapez une balle de tennis, il faut que le main et le bras travaillent ensemble. Le main et le bras et le pied et l'œil et tout ça. Et l'œil, verset 21, ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Pour chanter, l'oreille et la bouche ont besoin l'un de l'autre. Donc, toutes les fonctions de notre corps, on a besoin des autres membres du corps. Un exemple concret pour les Corinthiens, il va dire plus tard que chapitre 14, le don des langues avait besoin du don d'être interprété. Et si vous essayez de faire les langues sans l'interprétation, ça ne sert à rien, donc taisez-vous. Donc ça, un travers pour nous, c'est de dire, je n'ai pas besoin des autres. L'autre travers, c'est de dire, les autres n'ont pas besoin de moi. Un travers que nous vivons des fois, c'est de dire, je n'ai pas besoin des autres, je fais tout moi-même. Un autre travers, c'est les autres n'ont pas besoin de moi, donc je fais rien. Et la vie d'église n'est pas ainsi. Alors, dans quel travers avez-vous l'habitude de tomber? Je n'ai pas besoin des autres, ou les autres n'ont pas besoin de moi? Et enfin, il va terminer avec cette pensée que tous les membres, comme tous les organes du corps, tous les dons, tous les membres sont importants, même s'il y a des différences de visibilité publique et de fonction vitale. Tous les membres sont importants, tous les organes sont importants, même s'il y a des différences de visibilité publique ou de fonction vitale. C'est vrai qu'il parle ici, dans les versets 22, il parle des membres les plus faibles, et aussi il va parler des membres les moins honorables, les plus faibles et les moins honorables. Les membres plus faibles, là, il peut s'agir peut-être de nos organes internes. Ces organes sont très importants, mais elles ne sont pas très forts. Il ne faut pas taper avec un marteau sur un rein ou sur un pancréas. Ça, c'est encore le doigt à supporter un peu, même si ça fait mal. Mais... Donc, les organes intérieurs sont peut-être plus fragiles, donc on va les protéger avec une squelette, avec la peau, pour qu'ils soient protégés. Mais ils sont très importants. Il parle aussi des membres moins honorables. Il évoque là même les parties privées de notre corps qu'on va habiller, qu'on ne va pas montrer. Ce serait la nudité, ce serait une honte, donc on va les couvrir, qui est une manière de les honorer. Et dans l'Église, cette image est parlante. Certains dons, c'est vrai, sont plus visibles. Et des fois, on a tendance de les associer à plus d'honneur, plus d'importance. Ici, pour les Corinthiens, c'était des dons surnaturels, des dons miraculeux, le parler en langue. Dans d'autres églises, c'est peut-être tout ce qui se fait sur l'estrade ou les rôles de direction. C'est sûr, ces rôles-là, ces dons-là sont plus visibles. Mais on va rappeler qu'il y a d'autres dons qui sont importants et qui vont être pratiqués dans l'ombre. Oui, il y a moins de reconnaissance publique. Il y a moins de mise en avant. Mais ils ont l'honneur aussi, ils ont un rôle important ici, et on va même les soigner peut-être un peu plus. Par exemple, l'ongle de la petite orteille sur votre pied n'a pas la même fonction vitale que le cerveau ou le cœur. Mais si vous prenez un brick ou un bas et que l'ongle de la petite orteille s'arrache ou saigne, là, tout le corps va vite penser à lui et vouloir le soigner. Personne, à ce moment, ne pense pas trop au cerveau, au cœur. D'ailleurs, vous ne pensez pas trop à ce que le cœur fait tout le temps. Mais là, quand il y a un petit membre qui souffre comme ça, toute l'Église se met pour soigner. Et donc, certains dons, certaines manières de fonctionner sont peut-être moins visibles. Mais quand ces dons souffrent, quand il leur manque, par exemple, dans l'Église, tout le corps va le sentir et va vouloir intervenir. Il y a des fois bien des choses, on ne s'aperçoit pas l'utilité jusqu'à ce qu'on n'en a plus. Et nous vivons ça souvent dans l'Église. Alors cette image est vraiment belle et j'espère que votre conception de l'Église, d'une vie d'Église, corresponde à ce corps. Le pancréas. J'ai envie de vous demander ce matin, quel organe êtes-vous dans le corps? À l'EBTM, quel organe représentez-vous? Quelque chose. Mais sachez que vous avez tous un rôle, vous avez tous un don. Est-ce que vous avez déjà vu un pancréas tout seul en ville? Mais un corps sans pancréas n'est pas bon non plus. Et donc, votre don, vous avez besoin de tous les autres dons, d'où l'importance de vivre l'Église. Et l'Église a besoin de votre don. D'où votre importance. Et maintenant, nous pouvons terminer pour conclure, pour voir si nous avons compris. Paul va poser quelques questions de révision à la fin de ce chapitre. Est-ce que, et donc, il a réglé le désordre dans les rassemblements en leur parlant de la diversité des dons qu'il faut célébrer dans la vie d'Église, dans les rassemblements, dans les cultes. Et puis, il leur a donné une image, ce sont les membres du corps. Pour montrer cette diversité, cette unité. Et maintenant, pour voir si nous avons compris, il nous pose quelques questions à la fin du chapitre, à partir du verset 29. Alors, avec ces images en tête, avec ces vérités en tête, avec tout le chapitre 12 que nous avons lu, il va poser aux Corinthiens ces questions. Alors, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don? Et la réponse attendue à toutes ces questions, c'est bien sûr que non. On n'est pas tous oreilles, tous les membres ne sont pas oreilles, tous les membres ne sont pas œils, tous les membres du corps ne sont pas genoux. De la même manière, voilà, tous n'ont pas ces dons. Et ça, ça va. Les Corinthiens vont basculer dans leur manière de penser. Ils ont mis en premier certains dons spectaculaires pour se mettre en avant. Et Paul dit non, c'est pas comme ça qu'il faut vivre à l'Église. Vous voyez, Paul veut complètement inverser leur manière de réfléchir. Il termine en disant, aspirez aux dons les meilleurs, je vais vous encore vous montrer une voie par excellence. Et ce chapitre 12 est suivi par le fameux chapitre 13. Ce serait peut-être une des plus belles choses que vous allez apprendre en 1 Corinthiens, c'est que le 13 suit le 12. Vous connaissez tous le chapitre 13, mais maintenant vous allez l'apprécier encore plus en voyant cette nouvelle manière de vivre les dons. Il y a un don par excellence, il y a une voie par excellence que nous allons voir bientôt. Et Paul va essayer de leur faire comprendre que les meilleurs dons sont ceux qui rendent service, les meilleurs dons sont ceux qui manifestent l'amour aux autres, les meilleurs dons sont ceux qui manifestent l'humilité, pas ceux qui manifestent la prouesse, le spectaculaire, le surdoué que les Corinthiens aimaient bien, influencés par la culture corinthienne qui voulait aussi toujours se mettre en avant. Et Paul dit non, aspirez, je dirais collectivement en tant qu'Église, aspirez aux meilleurs dons, aspirez aux dons qui sont plutôt les dons d'amour, les dons d'humilité, les dons qui servent à édifier les autres et pas se mettre en avant. Et ça, nous avons besoin de nous rappeler constamment comment l'Évangile, comment le chemin de la croix, comment Jésus-Christ renverse les valeurs du monde. Le monde qui dit « cherche à être le premier », la croix qui dit « cherche à aimer, cherche à servir les autres ». Dans le monde, les dons et les atouts qu'on va mettre en avant, c'est l'intelligence, c'est la force, c'est la richesse, c'est la popularité. Et les Corinthiens disaient « oui, le parler en langue, ça me permet de faire ça ». Mais c'est pas comme ça que Jésus a composé son corps, son Église. Il n'est pas allé chercher les plus doués, les plus forts, les plus intelligents, les plus en avant dans ce monde. Il leur a rappelé au début de l'épée, il vous a choisi, vous les parmi vous, il n'y a pas beaucoup d'intelligents, de forts, de riches, de nobles. Soyons honnêtes, on peut avoir des petites désaccords entre nous et on essaie de se comparer les uns aux autres, mais si on se compare, nous, petite église de Jésus-Christ, tout ce qu'on peut trouver dans le monde, nous ne sommes pas des surdoués. Si on veut des musiciens hors pair, si on veut des administrations hors pair, c'est, dans le monde, on va trouver des gens bien plus doués que nous. Dans l'église, on ne peut pas se féliciter de surdoués. Au contraire, Jésus a voulu composer son corps avec des bras cassés tels que nous, ce qui montre sa grâce. Qui nous a formé un corps, c'est une grâce. Il n'a pas choisi les plus doués. Et après, il nous équipe. C'est une grâce qui nous inclut dans sa famille, dans son corps. Et puis, on découvre que toutes nos capacités naturelles et spirituelles sont aussi des grâces. D'ailleurs, le mot don ici, ça vient du mot grâce. Tout est grâce dans la vie chrétienne. Le salut est une grâce. Et puis, le service est une grâce aussi. Et si nous pouvons le vivre ainsi, en acceptant cette grâce du salut et en acceptant ces dons de grâce venant de Jésus-Christ, là, on va vivre l'unité et l'amour dans l'Église. Que Dieu nous aide à le faire. Prions pour terminer. En effet, Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es le chef, tu es la tête, tu es le roi de ton Église. Nous te remercions pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous aide à reconnaître que tu es le Seigneur, qui nous aide à vivre dans l'humilité, dans l'unité, en mettant les autres devant soi-même. Nous te prions de nous aider à vivre nos dons de la façon que Paul encourage aux Corinthiens, avec unité, avec une célébration de toute la diversité dans le corps de Christ. Je te prie que chacun ici se rappelle qu'il est comme un organe indispensable à un corps humain. Différentes fonctions, différentes honneurs, différentes visibilités, mais chacun nous avons notre place. Nous te prions que si quelqu'un n'a pas une vie de foi, une vie d'église qui est inspirée d'un chapitre comme celui-ci, qui découvre la joie de vivre en famille, dans un corps où nous nous aimons les uns les autres, nous nous rendons service les uns les autres, nous nous portons les uns les autres pour ta gloire, pour fonctionner ensemble. Nous te remercions pour ces temps de célébration que nous avons vécu ce matin. Nous te prions d'être avec nous tous les jours de la semaine où nous continuons à vivre l'Église d'une différente manière, mais en pensant les uns les autres, en priant les uns pour les autres, en étudiant la Bible les uns avec les autres dans les cellules. Toutes ces choses, nous te remercions pour la vie que tu donnes à ce corps. Nous te prions que nous puissions te glorifier en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.